Est-ce que je peux t'en conter une pas pire?
Vas-y.
Hier, on reçoit des courriels d'auditeurs qui disent « C'est quoi cette affaire-là? Bombardier met en vente à l'encan des entrepôts pour non-paiement de taxes. »
Oui. Okay?
Mais voyons, on ne peut pas. On a vérifié chez Bombardier et ils ont avoué qu'il y avait eu un problème à l'interne. Et comme le veut l'expression, le chèque est dans la malle.
Ben oui, ça arrive à Montréal. Hein? Si tu oublies de payer tes taxes foncières puis tu ne fais pas le suivi de ton courrier parce que tu es fatigué, mettons, ben ils vont mettre ta maison aux enchères. Des fois, il y a des gens qui se retrouvent à se faire appeler par leurs amis. « Hey, en passant, ta maison est aux enchères. »
Ben oui, c'est ça.
Mais ça, là, arrive. C'est quand même... ça arrive à Bombardier.
ça arrive chez Bombardier. Parlons d'Hydro-Québec et l'angle mort sur les tarifs.
Oui, il y a un grand débat de société sur le 1,3% d'augmentation. Ça déchire les passions, Paul, ça soulève les passions plutôt. Et on dit « Oui, mais là, ils ont regardé le taux d'inflation par rapport à une période de l'année, puis on pense qu'ils devraient prendre une autre référence. » Faut pas oublier que si Hydro-Québec calcule l'inflation d'un certain moment à un certain moment, c'est la même période chaque année. Et donc, si vous jugez que la période de référence ne vous satisfait pas une année, elle peut être plus payante une autre année. Donc, c'est un gros débat de société basé sur une chose, je trouve, qu'on oublie. C'est que nos tarifs, ils sont bas. Alors, je suis allé voir les comparaisons avec au niveau des tarifs résidentiels pan-canadiens. Et tu sais, à Edmonton, on va payer 14 cents du kilowattheure. À Calgary, 14,83. À Winnipeg, 9,6. Puis au Québec, 7,30. Donc, tu vois, on n'est pas cher. Et quand on prend la référence, si on prend Hydro-Québec comme référence, les grandes villes nord-américaines et du Canada paient généralement beaucoup plus cher que nous. Alors, la question, c'est, quand on se fixe, qu'on fait une obsession sur le pourcentage d'augmentation et qu'on parle de choc tarifaire, il ne faut pas oublier que une petite augmentation sur un petit montant par rapport à une plus grosse augmentation sur un plus gros montant ailleurs, l'écart se creuse. Si bien qu'au Québec, si tu es dans les culottes d'Hydro-Québec, tu te dis « mais ça n'a pas de bon sens ». De 2016 à 2020, nos tarifs sont passés pour 1000 kWh à de 7,23 plus taxes à 7,30. Alors que si tu vas ailleurs au Canada, comme à Calgary, on est passé de 10,40 à 14,83. Tu vois, le saut ailleurs est de plus en plus gros par rapport au Québec parce que la référence, elle est plus élevée. Et là, on n'a pas le choix comme société de commencer à se poser la question sur le ticket modérateur. Au Québec, on bénéficie d'hydroélectricité, disons d'infrastructures qui datent d'une autre époque et on n'a pas une modulation qui reflète la juste valeur marchande.
Mais là, tu es en train de me dire que tu voudrais qu'on paye plus cher d'électricité.
Je ne veux pas me rendre là, Paul, parce que je vais me faire des ennemis. Puis je ne veux pas encore me faire... Tu sais, moi, je suis le gauche, de droite, du centre, de l'arrière-droite. Là, je suis toujours la personne qui n'est jamais dans le camp de personne, tu comprends? Et ce que je veux dire, c'est que nous sommes chanceux au Québec d'avoir des tarifs extrêmement bas. Et ça, il faut en prendre conscience. On peut être choqué d'une hausse parce que notre budget ne le permet pas. Puis dire qu'on chauffe ici à l'hydroélectricité par rapport, ou à l'électricité par rapport à d'autres provinces qui sont sur les hydrocarbures. Et donc, il faut faire comparer des choses. Mais le signal de prix ne dit pas au consommateur, change tes habitudes. Le signal de prix ne dit pas, prends pas ta sécheuse à l'heure du souper quand le réseau est hyper chargé. Le signal du prix ne te dit pas, cesse de chauffer ta piscine creusée au mois de septembre. Nous ne payons pas le prix nord-américain de l'énergie. Et par ce fait même, on sous-estime pour envoyer un mauvais signal de prix au consommateur. C'est-à-dire qu'on lui dit que le service qu'il utilise, il est pas cher. Et donc, quand il y a une augmentation de 1%, on soulève des passions. Mais si on se comparait avec nos voisins, on dirait, mon Dieu, on est chanceux, on va relaxer un peu. Mais je comprends qu'on est en contexte pandémique. Puis là, je suis pas en train de minimiser la facture d'électricité, parce que l'angle noir de ma propre chronique, c'est plus t'es riche, plus tu peux avoir une maison isolée et faire des choix d'habitation en fonction de ça. Et moins t'es riche, plus tu te retrouves dans des logements peut-être mal isolés. Et donc, tu paies le lourd prix de faire partie d'une strate moins riche de la population.
Parlons de permis de conduire pour les jeunes.
Oui, Paul, surprise. Alors, tu sais, si vous avez un jeune de 20 ans, qui vous dit « Ah, papa, maman, je ne suis pas pressé de passer mon permis. De toute façon, ça pollue, puis l'environnement, je n'ai pas besoin, j'ai accès au transport en commun. » Dites à votre jeune, va passer ton permis. Puis là, je t'explique pourquoi. Plus tu vieillis, plus tu passes ton permis tard, plus les assurances t'attendent dans le détour. Non seulement à cause de l'expérience que tu auras en moins officiellement dans ton dossier de conduite, mais aussi le fait que plus tu apprends tard statistiquement, moins tu es intéressé à la chose de la conduite et donc peut-être que tu as moins d'habileté et peut-être que statistiquement, on est moins intéressé à ta clientèle. Alors, si tu, quand tu es jeune, tu te fous un peu de l'avenir et tu te dis « mais c'est pas grave, permis de conduire, j'en ai pas besoin, moi je suis un citoyen de demain », mais que finalement à 32 ans, tu as 3 enfants puis ça te tente d'aller en auto à Rawdon. Là, tu dis « je vais passer mon permis, hein, il est peut-être temps. » Là. Là, tu passes ton permis et là, tu viens pour t'assurer, tu dis « hop là, comment ça se fait que moi à 30 ans, pas d'accident, rien, des enfants, pas d'excès de vitesse, je paie 3 fois ou 2 fois plus cher que mon voisin pour la même voiture, dans la même région géographique, mais tu as pris ton permis à 30 ans. » Et alors, ben, statistiquement, tu n'es pas une clientèle qui nous intéresse. D'ailleurs, est-ce que ton dossier de crédit est bon? Ben, là, c'est quoi le rapport? Ben, si tu as un bon dossier de crédit, tu nous démontres que tu es une personne responsable et que tu ne seras pas non plus une problématique au niveau du paiement mensuel. Et donc, si votre jeune se fout de son dossier de crédit et ne passe pas son permis jeune, Paul, il paiera le prix durant des années en assurance. Donc, s'il se dit présentement, je ne veux pas faire mes cours de conduite, c'est trop cher, je lui invite à faire une valeur actuelle nette de toute l'assurance qu'il va payer en trop plus tard, ramener ça en date d'aujourd'hui, puis dire à ses parents, je vais passer mon permis, mais je vais continuer à prendre l'autobus. Tu t'attendais pas à ça de moi ce matin, hein? Mais on est là. On parle que les assureurs choisissent leurs habitats préférés, choisissent les gens qu'ils veulent assurer. Et si vous êtes dans un type de clientèle que les assureurs aiment moins pour des raisons de prix, de statistiques, on va vous surcharger et vous allez venir pour vous assurer à 35 ans, 40 ans. Puis là, tu vas dire, comment ça se fait que ma fille de 20 ans paye moins cher que moi-même? Ben parce que ta fille de 20 ans a passé son permis à 16 et toi à 30. Alors, bonne journée.
Tu vas augmenter ta banque d'amitié aujourd'hui, toi.
Mais, non, mais pas, je parle de la réalité financière. Non,
mais c'est parfait, je suis d'accord avec ça.
Je suis froid, mais j'ai un cœur.
On va pas ajouter une ligne à ce que tu viens de dire. Salut, 7h22. Véhicule en panne sur la métropolitaine.